France Inter.
Et c'est l'heure des informations avec Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Alexandra Ben Saïd et bienvenue à tous à la une de ce 13h. Deux suspects en garde à vue une semaine après le braquage du Louvre. L'un d'eux s'apprêtait hier soir à prendre un avion pour l'Algérie. Les traces ADN auraient fait progresser l'enquête. Le point dans un instant avec Emmanuel Leclerc. À la une également le départ dans une heure du reste de la flotte de la Transat Café L'Or, ex-Jacques Vabre. Parmi les 10 bateaux partis hier, 3 ont chaviré la nuit dernière. Quels sont les pièges à éviter au départ de cette Transat? Eh bien, nous en parlerons avec l'invité de ce journal, le skipper Roland Jourdain, multiple vainqueur de cette Transat à laquelle il a participé une dizaine de fois. L'actualité à l'étranger avec ce tir expérimental réussi en Russie, un missile de croisière russe à propulsion nucléaire. Et puis dans les Hauts-de-France, nous irons à la cueillette des baies de Genévrier. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, avec un ciel bien changeant cet après-midi.
Oui, avec des nuages, des éclaircies, des averses qui seront un petit peu plus importantes sur un axe Nord-Aquitaine, Jura et Alpes.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Dimanche dernier à la même heure, la planète avait les yeux rivés sur le musée du Louvre. Et bien une semaine après, voilà deux des malfaiteurs présumés interpellés hier soir. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Service police-justice de France Inter. L'un des deux individus s'apprêtait hier soir à s'envoler pour l'étranger.
Oui, et tout s'est précipité quand les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme se rendent compte que l'un des suspects pistés ces derniers jours voulait effectivement quitter la France et prendre un vol sur Air Algérie, dernier vol de la soirée. L'homme est suivi par une équipe de la brigade de recherche et d'intervention qui prévient la police aux frontières pour cheminer discrètement dans l'aéroport avant interpellation à 20h précisément selon nos informations, 40 minutes seulement avant le décollage de l'avion. Suspect originaire de Seine-Saint-Denis, selon nos confrères du Parisien, déjà bien connu de la police judiciaire parisienne pour d'autres braquages. Dans la foulée, une autre équipe de la BRB est allée arrêter un deuxième membre présumé du commando à l'origine du cambriolage du musée du Louvre, dimanche dernier. Même profil, même origine. Les deux hommes ont une trentaine d'années. Ils ont été placés en garde à vue. Vous l'avez dit, elle peut durer 96 heures. La procureure de Paris, Laure Bécuot, qui a confirmé ces arrestations, n'a pas souhaité évoquer d'autres aspects d'une opération en cours pour retrouver les deux autres malfaiteurs et puis leurs complices et surtout le butin.
Et deux personnes en garde à vue. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles des bijoux volés dans la salle Apollon?
Alors, ces deux interpellations en Ile-de-France, le fait que les suspects voulaient apparemment quitter le pays dans la précipitation, le fait que les enquêteurs de la police judiciaire sont allés très vite pour mettre des noms sur des visages de suspects, eh bien, cela faisait dire ce matin à une source proche de l'affaire que les bijoux sont peut-être toujours dans le coin, pas très loin de Paris. Mais tout cela dépendra des deux autres suspects recherchés par une centaine d'enquêteurs, s'ils sont toujours cachés quelque part dans la région. Et ou s'ils ont bien enterré les bijoux ou remis à un receleur, lui-même peut-être déjà loin de la France.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, félicite les enquêteurs qui, à ma demande, a-t-il dit, ont travaillé sans relâche. Et il oppose aussi une fin de non-recevoir à la requête de la présidente du Louvre, Laurence Descartes, qui lors de son audition au Sénat avait souhaité l'installation d'un commissariat à l'intérieur même du musée. Dans la tribune dimanche, Laurent Nunez estime que ça n'aurait rien changé dimanche dernier, puisqu'il y a déjà un commissariat juste à côté de ce musée. Et d'ailleurs, rappelle-t-il, les policiers sont arrivés en seulement 3 minutes, il y a une semaine, lors de ce braquage. On va prendre l'air du Havre, avec les bateaux qui ont commencé à quitter les pontons ce matin pour se rapprocher de la ligne de départ de la Transat Café L'Or, ex-Jacques Vabre. C'est la seconde vague de bateaux à prendre le départ en direction de la Martinique, après ceux hier de la catégorie Ocean 50. Parmi les 10 équipages partis hier soir, 3 ont chaviré la nuit dernière. On va en reparler dans un instant avec notre invité Roland Jourdain. Avant cela, on rejoint notre envoyé spécial au Havre. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Avec du vent ce matin, de la fraîcheur et des éclaircies aussi. Pour le départ des classes 40, des IMOCA et des ultimes, ce sera dans environ une heure.
Alors du vent, ça c'est sûr, on est tous décoiffés Eric sur la plage du Havre, de la fraîcheur aussi, hein, les enfants et les parents ont les cirés bien fermés jusqu'au cou. Et des éclaircies, bah écoutez, on les entend encore, mais on espère. En tout cas, sur cette plage du Havre, On a une vue parfaite sur les 64 bateaux qui sont désormais tous sortis du bassin, qui ont tous franchi avec brio la délicate sortie du sas, très étroite, notamment pour les gros ultimes. Désormais, concentration sur le départ. Les conditions devraient être idéales, mais c'est surtout la première nuit qui risque d'être agitée avec des vents cette fois à 80-90 km/h. Donc les deux skippers de chaque bateau risquent de veiller une bonne partie de la nuit, en tout cas jusqu'à la sortie de la Manche, d'où l'importance, Eric, de cette dernière heure de repos avant le moment M. Donc repos et repas en ce moment sur les bateaux, ici sur la plage, sandwich, jumelles et patience avant le début du spectacle.
Merci Emma Sarango, en direct du Havre avec les moyens techniques de Jérémy Thuile. Et bonjour Roland Jourdain.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut rappeler que vous avez participé une dizaine de fois à cette transatlantique, que vous l'avez remportée en 95, en 2001, vous êtes aussi double vainqueur de la route du Rhum en classe IMOCA. Concernant cette transat Café Laure, il y a eu 3 chavirages par gros temps ces dernières heures. Ça concerne les catégories 50 Ocean parties hier du Havre. Dites-nous, comment sont ces bateaux de 15 mètres? Ils sont rapides mais aussi plus instables peut-être?
Oui, alors malheureusement, c'est vrai qu'ils avaient choisi de partir hier parce que les conditions seraient moins difficiles, mais dans ce vent-là, oui, c'est des cas limites pour ces bateaux-là. C'est 15 mètres de longueur par 15 mètres de large. C'est très très puissant comme bateau, et le moindre petit problème, ben voilà, on est sur la crête, et malheureusement pour 3 bateaux, ça s'est mal passé. Dont un, a priori, qui avait cassé son flotteur. Donc il s'est pas envolé avec le vent, il y a eu un problème technique, mais le reste, je sais pas d'autres nouvelles.
Oui, et les équipages ont tous été litreillés, il n'y a pas de problème pour eux. Avec des vents de 30 nœuds parfois, des creux de 2,50 m hier, à partir de quel seuil un directeur de course peut-il décider de retarder le départ?
Oh ben la direction de course est d'une sagesse et d'une compétence au-dessus de tout soupçon là-dedans, parce que la précédente Transat, on avait eu un skate à rallonge, parce que le départ avait été donné plusieurs jours après. Alors, il y a le vent, il y a la hauteur de la mer, il y a la période de la mer, il y a les grains, enfin, c'est une petite combinaison assez complexe finalement. Et puis, au final, c'est chaque coureur et chaque skipper qui est libre de prendre ou pas le départ. C'est vrai qu'il y a une responsabilisation aussi de chacun dans ces domaines-là. Tout retombe sur la direction de course.
Un mot sur cet entonnoir de la Manche. Pourquoi est-ce toujours un endroit difficile à passer? Quels sont les pièges à éviter?
Ben, c'est compliqué l'automne en France, hein, et puis là on le voit bien, donc des vents dans le nez, des vents qui viennent de secteur ouest puis nord-ouest, de la mer, de l'instabilité. Côté sport, ben un départ, on quitte la terre avec la pression de la terre, et puis comme si ça suffisait pas, en fait le bonheur est dans le pré. Plus on sera rapidement sorti de la Manche, plus on gagnera des points pour la suite, parce que on prête souvent qu'au riche, et ben c'est vraiment le cas la situation. Quand on sort, il vaut mieux être devant. Donc, ça pousse d'une part, d'un côté, à la prudence pour se dire faut pas casser parce que la route est longue. Et puis, d'un autre côté, faut y aller parce que c'est une course et il y a de la concurrence, quoi. Donc, c'est un peu kafkaïen.
Et vous, Roland Jourdain, comment viviez-vous cette transition quand il faut à la fois quitter le monde des terriens pour s'élancer dans cette transatlantique?
Alors, si une recette à donner, la meilleure chose à faire, c'est une fois qu'on a pris le départ dans l'après-midi, même si les conditions sont difficiles, etc., c'est d'aller faire une sieste. Même si elle ne dure que 10 minutes, que 15 minutes, peut-être 20 minutes, on va laisser dans son sommeil toute la charge de la terre et on va se réveiller avec la page blanche et tourner dans la course. C'était mon petit truc, mais après chacun a le sien.
La micro-sieste de Roland Jourdain pour éviter la charge de la terre. On va rappeler que c'est une transat en double. Comment est-ce qu'on choisit le binôme?
Alors, il y a de multiples possibilités, c'est ça qui est sympa. Un skipper a un nouveau bateau, il va vouloir s'entourer, par exemple, d'une personne, d'un gars, d'une fille qui soit plus compétent que lui dans cette catégorie de bateau pour apprendre. Et un skipper connaît absolument bien son bateau depuis plusieurs années, il va trouver une compétence sur un domaine particulier, du réglage, par exemple, ou de la navigation, de la stratégie, pour étoffer ses compétences. Il y a de l'affinité aussi, il y a de l'affect. Mais globalement, ça tire vers le haut dans un monde de professionnalisme absolu. Donc on cherche le meilleur complément.
Merci beaucoup, Roland Jourdain, d'avoir répondu en direct sur France Inter. Je précise que vous êtes vous-même en bateau en ce moment. Hein. Vous êtes au large du Brésil où vous participez à une expérience scientifique pour mieux connaître l'état du plancton dans l'océan. Grand merci à vous, Bilou, comme vous appellent vos amis. Quant à la Transat Café L'Or, eh bien le départ officiel de la course ce sera comme prévu à 14h10. L'actualité politique également avec les débats sur le budget. Ils vont reprendre demain à l'Assemblée nationale. Hier, ils se sont enlisés sans avoir le temps d'aborder le dossier épineux des taxations des plus riches, la taxe Zucman notamment. Lundi, demain, certains articles seront examinés en priorité, ce qui va repousser encore un peu plus l'examen de la taxe Zucman défendue par la gauche. Il n'y a pas de deal global avec les socialistes, juste un compromis au coup par coup, expliquait Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, qui était l'invitée il y a quelques minutes d'Alexandra Ben Saïd sur France Inter, et elle ne désespère pas de boucler ce budget dans les temps.
Non seulement j'y crois, mais j'y travaille, pas seul. Vous avez d'autres acteurs, hein. Ce sont les extrêmes. Eux, ils ne sont pas dans la course d'endurance pour l'intérêt général. Ils sont dans le sprint, aux tweets, aux invectives, qui passent bien sur les réseaux sociaux, mais qui ne mènent au fond, les Français et la France, nulle part. Et vous voyez, certains disent les débats sont lents. Parce qu'ils veulent, au fond, faire dérailler le compromis. Parce qu'ils s'en moquent. Il n'y a pas de pacte de non-censure, il n'y a pas d'accord de coalition, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de tambouille. On cherche, pour l'intérêt général, pour les Français, de leur donner un budget qui, à la fois, rétablisse les comptes publics et crée, sujet par sujet, un compromis.
Amélie de Montchalin, il y a quelques minutes sur France Inter, dans l'émission Questions politiques.
France Inter. Le journal de 13h, Éric Delvaux.
Vladimir Poutine n'était pas peu fier ce matin d'annoncer que la Russie a finalisé un tir expérimental de missiles de croisière à propulsion nucléaire. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France. Au-delà du seul effet d'annonce et du coup de menton de Vladimir Poutine, il faut prendre au sérieux cet essai de missiles de croisière russe à propulsion nucléaire.
Oui, cela fait 7 ans que Moscou dit travailler sur cette arme ultime sur laquelle fuitaient de temps en temps des informations inquiétantes. Un missile à la fois donc à propulsion nucléaire est capable d'emporter une charge nucléaire, un Tchernobyl volant, disent les experts occidentaux. Selon l'état-major russe, le dernier essai aurait duré environ 15 heures. Le missile aurait parcouru quelque 14 000 kilomètres. En théorie, il pourrait rester en vol indéfiniment et fondre sur sa cible par des routes inattendues, une arme impossible à intercepter selon les Russes, même si sa taille, 12 mètres, la rend quand même très visible et donc vulnérable. Cette annonce, elle intervient à un moment de tension entre Moscou et Washington, alors que vous le savez, la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine a été reportée sine die et que Washington a décidé des sanctions contre les principales entreprises pétrolières russes. Et c'est donc une prouesse militaire si elle était avérée, mais c'est surtout une posture politique à quelques mois de l'expiration du traité New Start, le dernier accord qui limite les arsenaux nucléaires russes et américains, eh bien la Russie montre les muscles et rappelle qu'elle peut encore développer des armes sans limite au risque de raviver la crainte d'une nouvelle escalade nucléaire.
Claude Guibal, rédaction internationale de Radio France. Et ce matin, en Malaisie, Donald Trump a signé plusieurs accords commerciaux avec la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge. Kuala Lumpur est la première étape de sa longue tournée en Asie. Et récemment encore, Donald Trump était très offensif, voire agressif sur les droits de douane envers ses partenaires asiatiques. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Kuala Lumpur, là où le président américain a participé au sommet des pays d'Asie du Sud-Est. Eh bien cette fois, Donald Trump s'est montré bien plus conciliant.
Oui, et pour une raison qui se voit immédiatement lorsqu'on arrive à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. La Chine est ici partout, banques, infrastructures. Et depuis que Donald Trump a annoncé des tarifs exorbitants pour les pays d'Asie du Sud-Est, les Chinois se sont engouffrés dans la brèche pour être encore plus présents, ce qui a donc contraint Donald Trump à cesser ses menaces tarifaires. Les accords signés ce matin prévoient que pour la Malaisie, le Cambodge et la Thaïlande, les droits de douane réciproques seront plafonnés à 19% et non plus à 25% comme évoqué précédemment. C'est c'est un soulagement pour ces trois pays qui exportent chaque année des dizaines de milliards de dollars aux États-Unis. Ce volume devrait être maintenu, mais en échange, Donald Trump a aussi obtenu d'importantes garanties, notamment sur la question des terres rares nécessaires à l'industrie américaine. La Malaisie promet de ne plus émettre de quotas sur ses exportations, manière très habile pour le président américain de contourner les restrictions chinoises sur ces minerais rares.
Sébastien Berriot, envoyé spécial de France Inter en Malaisie et en direct. Et à propos des accords commerciaux et des droits de douane avec la Chine, Donald Trump se dit ce matin bien optimiste sur un accord possible avec Pékin. Donald Trump qui devrait rencontrer le président Xi Jinping jeudi prochain. Décidément, trop de retard à Gaza dans le calendrier de retour des dernières dépouilles des otages enlevés par le Hamas. Il y a apparemment des difficultés pour localiser tous les corps dans les décombres de l'enclave réduite à néant. Et il a fallu un ultimatum du président américain pour voir arriver ce matin, dans la bande de Gaza, un convoi égyptien de véhicules de chantier pour aider à retrouver les corps. Luca Lazo.
Donald Trump a fait escale hier soir au Qatar, l'occasion de féliciter l'émir Al-Thani pour son rôle joué dans la mise en place du cessez-le-feu à Gaza, mais surtout l'occasion d'adresser un avertissement ferme au Hamas, le pressant d'accélérer la remise des 13 derniers corps d'otages israéliens. Donald Trump a déclaré qu'il suivrait les actions du groupe palestinien de très près au cours des prochaines 48 heures, à l'issue desquelles le Hamas devrait s'attendre, citation, à faire face aux conséquences. À ce jour, le mouvement islamiste n'a rendu les dépouilles que de 15 otages, aucune depuis mardi. Il en resterait donc 13 sous les décombres de Gaza. Pour accélérer les recherches compliquées par l'ampleur des destructions et éviter d'en arriver à une rupture unilatérale du cessez-le-feu alors que les Israéliens réfléchissent déjà à des sanctions, une équipe égyptienne munie de matériel adapté est arrivée hier dans la bande de Gaza. C'est la première fois depuis le cessez-le-feu qu'Israël autorise une équipe étrangère à entrer à Gaza. La semaine dernière, le passage de 80 secouristes turcs avait été refusé.
Luca Lazo, correspondant de France Inter à Jérusalem. C'est le plus prestigieux des prix de journalisme francophone, le prix Albert Londres. Il a été remis hier soir à Beyrouth à la chroniqueuse judiciaire de Libération, Julie Braffman, qui était l'invitée d'ailleurs ce matin de la matinale de France Inter. La journaliste n'était pas en mesure de se rendre à Beyrouth. C'est donc par vidéo qu'elle a participé à cette cérémonie de remise des prix hier soir. Alexandra Hakoun.
Elena Voloshin, prix Albert Londres 2025.
Pour son livre « Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine », paru aux éditions Autrement, née à Moscou, Elena Voloshin a passé 10 ans en Russie comme correspondante de la chaîne France 24.
J'ai été très tôt choquée et frappée par le travestissement du réel, en fait, de l'inversion du réel, du sens des mots. Et je le dis aujourd'hui, mes consoeurs et mes confrères, on ne peut pas travailler que sur les armes, il faut travailler sur les récits. Il n'y a pas de guerre sans qu'une propagande ne pousse des gens à s'entretuer, et les gens ne s'entretuent pas autrement.
La Russie également au cœur du syndrome de la Havane, mystérieuse affaire déployée sur 4 épisodes. Par Arthur Bouvard et Jules Giroda, lauréats de la catégorie audiovisuelle. Leur enquête est un véritable thriller géopolitique glaçant. Jules Giroda.
Je crois que le syndrome de la Havane et la manière dont le gouvernement américain a essayé d'étouffer cette affaire est symptomatique de la manière dont Vladimir Poutine, en utilisant les nouvelles technologies de l'information, des nouvelles armes, essaye d'instiller le doute dans nos démocraties et de les fracturer de l'intérieur.
Et puis Gaza s'est aussi invité dans le palmarès hier soir avec beaucoup d'émotion. Une médaille d'honneur pour les journalistes palestiniens remis à Adel Zanoun. En pleurs, l'ancien chef du bureau de l'AFP à Gaza a évoqué des journalistes vivant dans les flammes depuis plus de 2 ans. Toute la salle s'est mise debout pour l'applaudir.
Alexandra Hakoun, envoyée spéciale au Liban hier soir pour la remise du prix Albert Londres. Et nous terminons ce journal en Picardie pour la récolte des baies de genévrier avec l'objectif de créer du gin, un gin 100% Hauts-de-France à Villers-sous-Ailly. C'est près d'Abbeville, le reportage de Paola Guzzo.
Première étape, l'équipement.
Un seau, dernier cri. Et du coup, il y a des gants. Après, vous pouvez essayer à main nue, mais je ne vous conseille pas.
Puis, explication du travail sur place du Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France devant une quinzaine de bénévoles. Vincent Santune en est le directeur.
Il y a tout le travail, nous, de préservation de solari avec la commune, des éleveurs locaux. Et puis, on va aller sur le site en lui-même.
Objectif, récolter 10 kilos de baies de genévrier. Gabriel, 12 ans, a déjà la technique.
On caresse doucement les branches pour ne pas les abîmer. Les baies de genévrier noires, elles tombent toutes seules.
Jeune ou retraité, retraité, personne ne regrette de cette levée tôt.
Bah, on est dehors, on fait quelque chose d'utile, on va dire.
Une belle sortie, on rencontre des gens, c'est sympa.
Moi, j'aime bien savoir ce qu'on peut faire, notamment avec les plantes qui nous entourent. Ça permet aussi de valoriser les producteurs locaux.
Le chantier est mené en partenariat avec la distillerie Persigne dans les Hauts-de-France, mais c'est surtout un moyen de sensibiliser pour Vincent Santune du conservatoire.
Et c'est une façon de faire connaître ce milieu naturel et à travers ça, d'avoir des nouveaux bénévoles, des nouveaux adhérents qui vont contribuer par ailleurs à promouvoir la préservation de la nature.
La belle récolte de cette année servira à faire une liqueur aux bêtises de Cambrai, un gin, mais aussi une bière aux genièvres que les bénévoles curieux pourront goûter une fois la récolte terminée.
Du gin et de la bière picarde aux genièvres et surtout pas plus haut que le bord. C'était un reportage ici Picardie. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec encore pas mal de vent, hein, près de la Méditerranée surtout.
Oui, alors ce qui a l'avantage de chasser les nuages, c'est vrai, donc le soleil est bien présent, mais ça souffle fort, 90 km à l'heure en rafale pour le Mistral, jusqu'à 120 km à l'heure sur le Cap Corse. Du vent, on en a également sur les bords de Manche, avec des rafales entre 50 et 60 km à l'heure, sous un ciel mitigé, puisqu'on a des nuages, des éclaircies, encore quelques averses, et c'est ce type de temps qu'on aura sur quasiment tout le pays. Et puis on a toujours notre perturbation qui est arrivée par le nord ce matin, hein, par les bords de Manche, et qu'on va retrouver cet après-midi entre la Gironde, les Alpes et le Jura.
Ouais, et il fait plus frais.
Oui, 8 à 14 degrés en plaine sur la moitié nord, 10 à 16 plus au sud, avec encore une pointe à 24 degrés, ça c'est pour Bastia. Notez d'ailleurs qu'entre cette humidité et ces valeurs plus fraîches, surtout en montagne, il neige aujourd'hui sur tous les reliefs à basse altitude, hein, 1000 mètres sur les Vosges, 1200 à 1300 mètres pour les autres reliefs.
Les prévisions de Céline Dacosta.